Il est 8h.
L'efficacité du couvre-feu semble insuffisante pour contrer la diffusion des variants dans notre pays. Et dans ces conditions, il nous faut évidemment agir.
Agir, c'est le mot bien sûr lâché par le porte-parole du gouvernement hier soir. Mais agir comment? Et quand déclencher un confinement, quelle qu'en soit la forme? Dans les quelques heures ou jours de réflexion qu'il reste à Emmanuel Macron, Europe 1 a voulu regarder et s'inspirer. Nous serons dans un instant en Angleterre, confinement tardif et plutôt léger. En Espagne, qui n'a pas les moyens d'un reconfinement et des aides aux entreprises qui vont avec. Et en Israël, pays le plus vacciné au monde, mais où les variants du virus menacent. Dans ce journal, où sont les 100 milliards du plan de relance français? Le service économie d'Europe 1 n'a vu que 9 milliards d'euros dépensés jusqu'à présent. Et puis, si vous n'avez jamais passé une nuit en compagnie d'un gentleman, Europe 1 vous le propose dès ce soir. Petite précision, c'est un gentleman cambrioleur. Nuit spéciale, lecture d'Arsène Lupin.
Et juste après ce journal, la course entre la vaccination et la propagation des variants, la France aussi et sa capacité à produire, à déployer ce vaccin. Vincent Hénouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus respiratoires à l'Institut Pasteur, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avant le deuxième confinement, on se demandait quel serait l'équilibre entre la santé et l'économie. Il y a aujourd'hui un troisième facteur dans l'équation, le moral des Français. Le président prend son temps, impose le silence à la quasi-totalité de son gouvernement avant sa prise de parole, dimanche soir ou en début de semaine prochaine. Et pendant ce temps-là, les contaminations progressent de 10% par semaine depuis 3 semaines. On n'en est donc pas à l'explosion connue en octobre.
Mais attendre n'est pas forcément la bonne idée. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour Mathieu.
Correspondante d'Europe 1 à Londres, le variant est apparu en Angleterre dès septembre, mais on l'ignorait. Résultat, le confinement là-bas est arrivé trop tard fin décembre.
Oui, et le Royaume-Uni l'a payé cher. Hein. 2 semaines plus tard, alors que les premiers effets des restrictions auraient dû être observés, comme c'est le cas normalement, l'épidémie est hors de contrôle. Les nouveaux cas ont quasi doublé pour s'établir à 68 000 infections par jour. Et le nombre de décès quotidiens atteint des records jamais vus depuis le début de la pandémie. Alors certes, le confinement à l'anglaise est moins strict qu'en France. Hein. Les parcs sont ouverts, les masques ne sont pas obligatoires en extérieur. Mais il a tout de même fallu attendre un mois pour observer un très léger ralentissement de l'épidémie. Et pour les experts, ces progrès sont encore loin d'être suffisants pour envisager un déconfinement.
Anaïs Cordoba en direct de Londres pour Europe 1. On comprend l'intérêt de confiner tôt, mais on sait aussi que chaque jour de confinement strict coûte près d'1 milliard d'euros à l'économie. La France peut encore se le permettre, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et l'Espagne par exemple. Bonjour Henri de Laguéry.
Bonjour Mathieu.
En direct de Barcelone pour Europe 1 ce matin. L'Espagne qui écarte l'idée d'un nouveau confinement tout simplement parce qu'elle n'en a plus les moyens.
Exactement, et quand je sors en bas de chez moi, le petit commerce est ouvert, je peux prendre un café en terrasse ou déjeuner au restaurant, on peut même aller au cinéma ou visiter un musée, et c'est pareil à Madrid. Mais précisons que chaque région fait ce qu'elle veut, à Valence ou en Galice par exemple, la restauration est fermée. L'Espagne fait face à une terrible troisième vague avec chaque jour près de 500 morts, mais elle ne peut plus se permettre ce confinement strict du printemps dernier. Il a traumatisé la population, il a surtout mis à terre l'économie, le taux de chômage atteint 16%, la dette s'est envolée. Si nous pouvions verser des aides comme en France, tout resterait fermé, a reconnu le responsable santé de la Catalogne. Les restrictions qui ne coûtent pas d'argent sont donc privilégiées. Ainsi, on ne peut pas sortir de sa ville ou de sa région. Le couvre-feu commence à 22h. Dernier exemple de restriction, au Baléares ou à Valence, il est interdit de recevoir quelqu'un chez soi.
Henri de Laguéry, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. On guette la progression de la vaccination. La question s'est tendue encore ces derniers jours avec les retards ou les réductions de livraison des différents labos. On va voir où en est Israël, considéré comme le meilleur élève de la classe jusqu'à présent.
Bonjour Gwendoline Debono.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 en Israël. Un quart de la population a déjà été vaccinée là-bas et on observe que l'hospitalisation des plus âgés est en baisse de 60%.
Oui, les toutes premières études réalisées par les caisses d'assurance maladie sont encourageantes. 2 jours après la deuxième injection, les hospitalisations chutent de 60% chez les plus de 60 ans et surtout il n'y a presque plus de contamination. Malgré cela, Israël reste submergé par les cas de Covid. Le pays est entré dans son 3e confinement il y a un mois et il y a plus de cas aujourd'hui qu'au début du confinement. L'explication la plus plausible, c'est le variant britannique qui circule vite. Il représente plus de la moitié des nouvelles contaminations quotidiennes. Résultat, les frontières terrestres ont été fermées et aucun avion étranger n'est autorisé à se poser en Israël. Il s'agit d'une course vaccinée plus vite que ne circulent les variants.
Gwendoline Debono en ligne pour Europe 1 depuis Israël.
Alors quel sera le scénario français? On sait que l'hypothèse des vacances de février allongées est sur la table.
Oui, mais ce ne serait pas complètement des vacances, hein. Un petit peu d'école à la maison. Reste à voir si l'éducation nationale est prête, après un printemps qui a été parfois inconfortable, dirons-nous. Nous voici ce matin dans une école modèle, quelque part. C'est à Paris, dans le 20e arrondissement, où Virginie Riva a rencontré une institutrice de CM1 très préparée.
En cas de confinement, qu'est-ce que vous faites les loulous? Vous tapez https://dutchcatherine/le CM1 de Cathy.
En cas de reconfinement, Catherine Dutch, institutrice en CM1, est prête. Elle a créé son site internet sans passer par les outils de l'éducation nationale, avec des onglets maths, français, un agenda pour suivre les devoirs et même un espace parents interdit aux enfants où se trouvent les corrections.
Le site est déjà prêt, les parents connaissent la règle, ils photographient le travail de l'enfant et ils m'envoient ça sur mon téléphone pour que je puisse valider.
Si son école doit fermer, Valentine est plutôt rassurée. En tout cas, beaucoup plus que lors du premier confinement.
C'était compliqué parce que parfois tu recevais pas les messages, et alors que là, avec le site, ça va être plus facile de travailler. Parce que déjà là, par exemple, elle nous a montré, alors que l'année dernière, elle n'était pas du tout préparée à le confinement.
L'école n'a pas été choisie au hasard par le recteur de Paris, qui vient voir si les choses sont prêtes et lancer un message aux parents.
Nous sommes très nettement mieux préparés. Nous ne cherchons pas à rentrer en confinement parce que c'est beaucoup moins bien pour les élèves, et plus les élèves sont petits, plus c'est difficile. Simplement, chacun a joué le jeu, chacun a appris.
Dans cette école, tous les élèves auront accès à un ordinateur ou une tablette en cas de besoin.
Ah oui, tous les élèves. On aimerait bien que toutes les écoles soient équipées comme celle-là, voire même saluons aussi l'engagement de certains enseignants. On entend que cet
Absolument.
Enseignant est mobilisé pour ses élèves. Cette hypothèse d'un reconfinement avec des écoles fermées, ce serait un nouveau coup dur, très dur, porté à toute l'activité du pays. On a d'ailleurs, depuis une demi-heure, les chiffres définitifs de la croissance en 2020.
Oui, alors on va faire comme à l'école, on va prendre un petit schéma. Si l'économie française était chaque année un gâteau, celui de 2020 était 8% moins appétissant, enfin 8% moins gros en tout cas que celui de 2019. Ces 8%, c'est une part de gâteau de 200 milliards d'euros qui n'a pas été produite et ramenée à chaque Français. Cela représente des miettes, enfin en tout cas des miettes à 3 250 euros chacun, comme nous le disait Nicolas Barré à 7h15 dans son éclairage éco.
Alors il faudra bien le plan de relance et son chèque de 100 milliards d'euros pour faire repartir la machine au moins.
Oui, Emmanuel Macron veut que l'effet de ce plan se ressente très rapidement sur le terrain dans les mois qui viennent. C'est ce qu'il a dit à Vernon le 12 janvier dernier au micro de Jean-Rémy Baudeau.
Il doit arriver vite, fort et de manière tangible. Il n'existe pour nos concitoyens, pour nos forces économiques et l'ensemble des travailleurs de notre pays que quand ils deviennent des réalités.
Emmanuel Macron voulait aller vite. Ce matin, on va regarder à quel rythme nous sommes.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Alors d'abord, une précision importante. Il faut bien dissocier les 100 milliards d'euros dédiés au plan de relance de tout l'argent qui a été injecté pour soutenir l'économie depuis le début de l'épidémie.
Oui, vous avez tout à fait raison. Ce sont vraiment deux enveloppes différentes. Vous avez d'un côté 41,8 milliards d'euros qui ont été versés pour soutenir les entreprises. C'est le chômage partiel, les aides aux secteurs les plus en difficulté, etc. Vous avez également les 18 milliards d'euros de coûts pour l'assurance maladie. Et puis de l'autre, vous avez l'argent qui est destiné à redresser notre économie, à préparer l'avenir. C'est ça le plan de relance à 100 milliards.
Alors, est-ce qu'on sait combien d'argent a déjà été dépensé dans le cadre de ce plan de relance?
Oui, 9 milliards d'euros, plus de la moitié dans les transports, 4 milliards rien que pour la SNCF, notamment pour développer le fret et le réseau, plus d'un milliard pour les transports en commun d'Île-de-France qui ont perdu la moitié de leurs passagers. Le reste des 9 milliards a été versé à la fois aux collectivités locales et à un certain nombre d'entreprises, notamment pour les inciter à embaucher des jeunes. Le but, c'est d'éviter de sacrifier toute une génération et de se retrouver sans compétences quand la reprise sera là. Et puis en ce moment, plus de 500 millions d'euros sont également distribués pour aider les entreprises à se moderniser ou à relocaliser leurs activités. C'est le cas par exemple de Damien Rossignon, qui dirige une société de systèmes électroniques et qui attend sa subvention.
Alors nous, on va toucher 320 000 euros, qui correspond à peu près à un tiers de nos investissements. Donc on a embauché des développeurs pour peaufiner notre digitalisation et puis également une partie qui va servir à moderniser, plutôt à augmenter notre capacité de production, puisque on va acheter des machines. Sans le plan de relance, on n'aurait certainement pas fait ces investissements maintenant.
9 milliards au total donc, mais les 91 autres milliards, ils sont où? Il n'y a pas eu un peu de retard?
Non, pas du tout. Au contraire, le plan a même été déclenché un peu plus tôt que prévu, puisqu'au départ, il devait être mis en œuvre cette année, avec 40 milliards d'euros à dépenser. Le reste, ce sera l'année prochaine, en 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent n'est pas distribué comme ça, à l'aveugle, à tous ceux qui en font la demande. Chaque dossier est minutieusement examiné. Si on prend par exemple la rénovation thermique des bâtiments publics, sur les dizaines de milliers de dossiers, il a fallu en choisir 4000. 4000, c'est énorme. Une fois l'examen terminé, il faut que les travaux commencent. Et c'est à ce moment-là seulement que l'argent sera débloqué. Vous voyez, ça prend du temps.
Alors cet argent, ces sommes qui sont quand même assez énormes, Carole, comment tout ça va être financé ?
Effectivement, oui, c'est quand même 4 fois plus que ce qui a été dépensé pour la crise de 2008. Alors vous avez près de 40 milliards d'euros qui sont prêtés par l'Europe, mais l'argent est un peu long à débloquer, hein. Les premiers versements n'arriveront pas avant le printemps. Le reste sera financé par de la dette. L'idée, c'est que le plan de relance réamorce la croissance qui permettra de rembourser la dette. Et pour ça, bien sûr, il faut que le plan soit efficace.
Le plan de relance côté concret, dossier signé Carole Ferry. Merci Carole. J'ajoute que dans la France bouge sur Europe 1, tous les mercredis et les vendredis, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil reçoivent une ou un chef d'entreprise qui recrute. Tout à l'heure, 13h50, c'est le patron de Klaxoon, Mathieu Becher, qui viendra détailler les 100 postes qu'il propose. La France bouge, c'est tous les jours, après le journal de 13h.
Et vous restez avec nous. On va se cultiver sans effort. La nuit Arsène Lupin, c'est sur Europe 1 ce soir. A tout de suite, il est 8h11.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h12 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Toutes les agences Pôle emploi fermées aujourd'hui. Décision prise après le meurtre d'une conseillère à Valence hier. On faisait le point sur l'enquête dans le journal de 7h30. Les syndicats de Pôle emploi attendent beaucoup d'une réunion exceptionnelle du CSE mardi prochain, à l'image de David Valaperta de la CFDT.
C'est une tragédie absolue que nous n'avions jamais rencontrée, en tout cas à ce niveau de gravité, dans un accueil Pôle emploi. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà les agents Pôle emploi sont clairement en état de choc. Et l'inquiétude, elle est sur la période économique actuelle, liée au fait qu'il puisse y avoir d'autres comportements complètement irrationnels de ce type. Donc une des questions qui va se poser, c'est de sécuriser en tout cas l'organisation de nos accueils pour faire en sorte que ce genre de situation ne puisse surtout ne plus jamais se reproduire.
David Valaperta de la CFDT de Pôle emploi, il était avec Olivier Samin pour Europe 1. Depuis la sortie de Lupin, cette série sur Netflix avec Omar Sy, l'œuvre de Maurice Leblanc, Arsène Lupin a conquis de nouveaux lecteurs, on a eu l'occasion de le dire. Et cette nuit, Europe 1 vous propose d'écouter ses livres.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Mathieu.
À partir de minuit, un comédien lira pendant 2 heures le premier livre des aventures du Gentleman Cambrioleur, c'est bien ça ?
Exactement. Alors Gentleman Cambrioleur, c'est le surnom d'Arsène Lupin bien sûr, mais c'est aussi le titre du premier recueil de nouvelles publié en 1907. L'expression résume bien d'ailleurs le personnage, mais ce n'est pas Maurice Leblanc qui l'a inventé. C'est un journaliste dans un article du Petit Journal en 1905 qui s'intéressait à un nouveau phénomène de l'époque, les malfrats qui se déguisaient en bourgeois pour passer inaperçus parmi leurs victimes. Et le journaliste écrivait « Les voleurs sont maintenant de parfaits gentlemen ». Maurice Leblanc a repris la formule. Il a d'abord publié ses nouvelles dans les journaux et le succès a été tel qu'un éditeur lui a proposé de publier un recueil, Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, dont voici un petit extrait lu par le comédien François Berland.
Sa patience, son art du maquillage, sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage. Pourquoi, dit-il encore, aurais-je une apparence définie ? Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique ? Et il précise, avec une pointe d'orgueil, « Tant mieux si l'on ne peut jamais dire en toute certitude, voici Arsène Lupin. L'essentiel est qu'on dise sans crainte d'erreur, Arsène Lupin a fait cela. »
Belle voix, hein. La suite,
ça donne envie, hein.
Ce soir, de minuit à 2h du matin, et vendredi prochain aussi, même heure.
Merci Nicolas Caro, simplement parce que maintenant il y a quand même deux salles, deux ambiances quand on parle d'Arsène Lupin. Vous l'aviez joué cette semaine, la chanson de Jacques Dutronc, bien sûr. Et ça c'est Cascadeur qui fait la bande annonce de la série Netflix avec Omar Sy en l'occurrence. Un peu de musique. C'était le journal de 8h. Merci François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1, 8h15, un peu de musique, quelques notes de musique en douceur comme ça. Et nous accueillons Sonia Mabrouk à présent.
Ça fait du bien. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors ce matin, je vous propose un scientifique qui ne se met pas à la place du politique. C'est rare et c'est synonyme de cohérence. Soyez à l'écoute de Vincent Hainouf, il est en charge du Centre National de Référence des Virus Respiratoires de l'Institut Pasteur. Un discours pédagogue et pragmatique.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h18 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Vincent Hénouf, directeur adjoint du Centre National de Référence des Virus Respiratoires à l'Institut Pasteur.
Bienvenue à vous et bonjour Vincent Hénouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous faites partie à l'Institut Pasteur de ceux qui ont été les premiers à séquencer le virus, les variants, c'est évidemment essentiel. Mais tout d'abord, est-ce qu'on fait face, comme on l'entend, à une nouvelle épidémie avec ces variants ou est-ce que pour vous, et de manière pragmatique, c'est la suite presque logique ?
On pourrait presque dire que c'est la suite logique, sauf que là, on a quand même affaire à un variant en particulier. Il faut savoir que des variants, il y en a eu à partir du moment où on a connu ce virus. Le virus, dans sa multiplication, dans sa nature, va provoquer la fabrication, en fin de compte, de particules mutées. Et donc, ces particules vont soit être sélectionnées parce que la mutation est favorable, ou soit va être perdue. Et là, en effet, ces mutations ont été sélectionnées parce que ça lui donne un gain. Ce virus a la capacité de mieux diffuser dans la population. Il ne provoque pas de maladies plus graves, mais le fait de se diffuser beaucoup plus facilement, bien vous avez davantage de personnes malades au même moment, ce qui peut engorger les services hospitaliers, c'est ce que l'on observe actuellement.
Bien sûr, on a besoin, Vincent Hénouf, ce matin, de vos lumières, de votre expérience, parce qu'à vrai dire, entre le variant dit anglais, brésilien, sud-africain, on ne s'y retrouve plus. Est-ce que vous commencez vous-même à connaître les spécificités de chacun et quel est le variant éventuellement le plus contagieux, le plus dangereux ?
Alors aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a et des mutations, parce qu'il faut apprendre à connaître aussi ces mutations, on utilise plein de techniques, des technologies particulières, et notamment de la conformation de cette fameuse protéine. On parle de la spicule, de la spike. En fin de compte, c'est la protéine qui va permettre la fixation du virus à ses récepteurs. Pour le variant anglais, eh bien, il est favorisé, donc il se fixe beaucoup mieux, comme je viens de vous le dire. Si on regarde maintenant le sud-africain, il a des mutations différentes, et notamment des mutations qui vont provoquer une modification de cette spicule, et qui va sans doute empêcher en partie les anticorps donc, de reconnaître, et ainsi de moins bien neutraliser le virus lorsque vous allez être infecté éventuellement une deuxième fois. Et c'est ça qui peut être un peu alarmiste et qu'il faut étudier en effet, c'est de savoir jusqu'à quel point ce virus n'est pas neutralisé par des anticorps de patients, par exemple, qui seraient infectés lors de la première vague. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas du tout neutralisés, mais il y aura une efficacité un peu moins bonne. Et puis après, si on va jusqu'au vaccin, on pourrait très bien avoir des vaccins avec une efficacité un petit peu moins bonne, mais qui permettrait tout de même de protéger les personnes.
On va y venir, évidemment, parce que l'impact sur l'efficacité des vaccins est essentiel en ce moment, Vincent Hénouf. Il y a la question aussi, puisque vous y travaillez sur ces variants, qu'est-ce qui favorise leur développement ? Je voudrais vous soumettre la conclusion d'un rapport israélien à ce sujet. Voici ce qui est écrit, je cite la phrase. La vaccination de masse pourrait entraîner une pression évolutive sur le virus et générer des mutations. Autrement dit, Vincent Hénouf, les variants seraient l'un des effets collatéraux possibles de la vaccination ?
Tout à fait, c'est ce qui est attendu, c'est ce qu'on observe tous les ans lorsqu'il y a une épidémie de grippe. Et c'est pour ça que le vaccin antigrippal est remis à jour tous les ans. En tous les cas, on regarde s'il faut le remettre à jour.
Oui, parce que pour vous, ça vous paraît logique, mais ça
c'est l'évolution logique.
Mais pour nous, ça voudrait dire que ce serait une maladie chronique et qu'il y aurait peut-être chaque année des vaccins.
On ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Mais en tous les cas, maintenant, ça fait déjà un an que ce virus est parmi nous. Sans doute, il en prend un peu le chemin de devenir une maladie chronique, c'est-à-dire un virus qui va rester parmi nous. Et tout pendant que la population n'est pas suffisamment, ne possède pas suffisamment d'anticorps pour être protégée, on parle de 60% en fin de compte de personnes possédant des anticorps d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire avoir été infecté une première fois ou alors étant vacciné, il faut vraiment penser aux deux, et bien tant qu'on n'aura pas ce pourcentage, le virus continuera sans doute à diffuser dans la population. Et il est très peu... je pense que ça n'arrivera pas, mais on peut imaginer aussi des mutations qui agissent dans l'autre sens, des mutations qui éteignent en fin de compte le virus. Mais c'est un peu
on aimerait bien, probable. On aimerait bien que ça se développe, mais ce qui nous inquiète, en tout cas ce qui nous préoccupe également, vous, c'est de savoir, et vous l'avez évoqué Vincent Hénouf, s'il faudra modifier les vaccins ou bien carrément une nouvelle génération de vaccins face à ces variants. C'est-à-dire que les laboratoires devraient dès maintenant anticiper tout cela.
Alors, au niveau de la fabrication des vaccins, on a la chance, c'est qu'il y a différents types de vaccins. Il y a les vaccins dont on utilise aujourd'hui, les vaccins ARN, qui, heureusement qu'ils ont été là, dans le sens où ils ont été fabriqués et produits beaucoup plus rapidement. Et ce vaccin a aussi la possibilité, donne la possibilité de modifier, en fin de compte, cet ARN et de tenir compte des modifications que l'on connaît aujourd'hui, des mutations, en fin de compte. Donc, on serait tout à fait capable, je ne sais pas en combien de temps on pourrait fabriquer des doses, parce que tout ça, ça va demander du temps, mais on pourrait avoir une adaptation. Et d'autres vaccins vont venir ensuite. Le fait d'avoir ces vaccins qui vont arriver les uns derrière les autres, c'est qu'ils sont construits de manière différente et certains vaccins pourraient très bien avoir des appétences, c'est-à-dire une capacité à mieux protéger par exemple les personnes âgées, d'autres les enfants, etc. Et lorsqu'on aura
comme
une panoplie
le vaccin AstraZeneca qui, dit-on, serait moins efficace pour les plus de 65 ans, par exemple.
Et peut-être très efficace aussi vis-à-vis des enfants. J'en sais rien du tout. Donc c'est tout ça qu'il faut voir. Mais la difficulté, c'est qu'on doit tout faire en même temps. Et voilà,
mais je note que quand vous ne savez pas, vous dites « je ne sais pas ».
Ah oui, tout à fait. Oui.
C'est assez rare en ce moment. Et je dois vous dire, ça fait du bien, c'est un discours pragmatique et clair. Vincent Enofilia, une deuxième enquête flash, je vais essayer d'être très concrète pour nos auditeurs, qui a été lancée en France pour détecter la présence des variants au sein des tests PCR positifs enregistrés là, ce dernier jour. Qu'est-ce que vous attendez de ces résultats précisément ?
En fait, cette enquête flash, c'est pour déterminer la quantité de virus variant anglais présent sur le sol français. Donc on a analysé les échantillons de deux jours, les 7 et 8 janvier. Les résultats sont tombés aujourd'hui, tombés un peu au fil de l'eau. Et donc les 7 et 8 janvier, on est autour à peu près des 3% des échantillons positifs. Voilà, il y a du variant anglais. Aujourd'hui, sans doute que cette valeur a changé. Et d'ailleurs, l'enquête flash sur une journée a été refaite hier. Et donc, on va recevoir ces échantillons, on va les analyser de par PCR et ensuite par séquençage, de telle manière à déterminer s'il y a une évolution, en fin de compte, de la propagation de ce virus.
Ce que vous allez faire, Vincent Enouf, est essentiel, parce que de vos conclusions, de cette analyse, eh bien, on va avoir la décision politique d'un confinement plus ou moins léger ou plus ou moins dur. C'est bien cela, c'est sur ces résultats-là, aujourd'hui, que l'on se base.
C'est l'un des indicateurs, tout à fait.
Si ce n'est le plus important aujourd'hui.
C'est important parce qu'en effet, on a affaire à un variant qui diffuse très, très rapidement.
Autrement dit, si vos enquêtes ne sont pas sont assez sombres, pour vous, le chemin est assez clair vers un... De manière technique, vous nous diriez que le confinement est inévitable si vos résultats ne sont pas à la hauteur bien de ce que vous attendez ?
Mais même mis à part ces résultats, on voit une augmentation de tous les secteurs. Donc en effet, le confinement est la solution, en fin de compte, techniquement, pour casser la diffusion du virus. Donc maintenant, reste aux politiques de décider, mais techniquement, c'est l'une des meilleures solutions.
Bon. Est-ce qu'il y a un vaccin contre l'usure de l'esprit et de l'âme alors aussi ?
Ça, c'est
vous
toute
pouvez
la difficulté.
Y travailler à l'Institut Pasteur.
C'est toute la difficulté. Bon. En effet.
Non, le plus important, Vincent Enouf, et merci d'être là ce matin, parce que vous avez énormément de travail, et en particulier en ce moment, c'est ce séquençage. Et moi, ce qui me frappe, comme d'autres, c'est qu'en Angleterre, par exemple, ils ont énormément séquencé. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas cette puissance-là, au moins dans la médecine génomique ?
Je dirais qu'en Angleterre, ils ont eu la présence d'esprit, enfin, ou l'intelligence, ou alors des choses qui étaient déjà mises en place avant cette pandémie. Ils ont une capacité de centralisation des données et surtout de séquençage, peut-être de s'être allié avec des entreprises privées justement, parce qu'il y a des entreprises privées qui font du séquençage, qui proposent des machines pour faire du séquençage. Et donc tout ce discours, en fait, cette centralisation a permis de séquencer beaucoup. On peut regarder aussi, ils ont énormément séquencé, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre ? En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que la sensibilité de leur technique, en tous les cas l'analyse des données, ne leur a pas permis justement d'aller si vite que ça pour casser la diffusion de ce virus.
Certes, mais ils sont quelque part pionniers. Et aujourd'hui, on a l'impression que nous, la France, on est un petit peu sur le strapantin justement de cette médecine génomique. Mais je note, Vincent Enouf, que vous avez dit peut-être le mot-clé, c'est le mot privé. Ils font confiance au privé. Peut-être qu'en France aussi, il faudrait qu'on s'y mette davantage.
Il faudrait en effet peut-être travailler davantage ensemble, mais aujourd'hui, en tous les cas, en France, a été décidé justement la mise en place d'un réseau de plateformes en capacité de faire du séquençage.
Quand vous dites aujourd'hui, c'est récent ?
C'est assez récent, c'est dans les semaines, les deux, trois semaines, où là, vraiment, il y a une discussion parce qu'il y a vraiment un intérêt important. Ce qu'il faut dire, c'est que le séquençage est déjà utilisé depuis un an. On a
par
déjà
vous,
séquencé.
C'est ce que vous faites, vous.
L'Institut Pasteur a séquencé les premiers virus. Mais mis à part ça, là, c'est mettre en réseau et surtout utiliser le séquençage d'une manière un peu nouvelle. C'est toujours faire de l'épidémiologie, mais c'est l'utiliser davantage en surveillance, de telle manière à avoir ce maillage général en France et savoir ce qui circule et quel type de virus. Parce
Bien
que
sûr.
L'importance aujourd'hui, vous êtes atteint d'un coronavirus, mais lequel en fin de compte ? Est-ce que c'est le variant anglais ? Est-ce que c'est le variant sud-africain ? Mais demain, il va y avoir d'autres variants. Donc c'est de mettre en place des outils bioinformatiques suffisants pour détecter des mutations qui pourraient apparaître, qui aujourd'hui sont peut-être apparues.
Ça s'appelle l'anticipation.
C'est de l'anticipation.
Mais oui, et heureusement que vous êtes là pour le faire. Mais si je vous ai posé la question, Vincent Enouf, sur l'Angleterre, c'est que vous faites partie de l'Institut Pasteur. Et c'est vrai qu'on a beaucoup commenté ces derniers temps l'abandon du vaccin Pasteur. Il y a aussi le retard du vaccin Sanofi. Pour nous, c'est une forme de blessure d'orgueil pour nous, Français, citoyens. Et pour vous qui êtes à l'intérieur, comment vous le vivez ?
Alors, je ne suis pas directement dans les
je
équipes
bien,
qui font...
Mais...
ce qu'il faut voir, et
faites
je pense que
d'un
le message
institut qui a un nom qui est dans notre imaginaire collectif.
Il y a trois vaccins qui sont lancés. Il y en a un, en effet, parmi les trois qui a été arrêté. Justement, c'est de la transparence. C'est justement être juste. Si ce vaccin n'apporte pas, et pour tous les vaccins, c'est la même chose, s'il n'apporte pas un gain, un bénéfice, l'aventure ne doit pas être poursuivie.
Et en cela, l'Institut Pasteur a été très honnête.
Tout à fait.
Mais est-ce qu'on aurait dû parier sur d'autres technologies? Mais ça, c'est peut-être...
On a deux autres vaccins encore. Ouais. Donc il y a d'autres technologies.
Vous restez
et donc
optimiste.
Bien sûr.
Ouais. Mais on a envie, nous, que notre pays, pour conclure, monte sur le podium des pays en pointe dans la recherche pour le progrès, l'innovation. Qu'est-ce qui nous manque, Vincent? Vous voyez tout cela, j'allais dire, au plus près. Qu'est-ce qui nous manque? Où est cette flamme?
À mon avis, il ne manque pas grand-chose. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que...
Il manque la vision, peut-être.
Je ne sais pas s'il faut parler de vision. En tous les cas, on n'a pas forcément les mêmes stratégies initialement. Et aujourd'hui, on en est là. On parlait du séquençage. Je pense qu'il n'est absolument pas du tout nécessaire de faire autant de séquençage qu'en Angleterre. Il faut en faire, mais il faut le faire de manière pragmatique et évidente pour l'ensemble.
C'est ce que vous le faites, de manière pragmatique, comme votre discours. Donc merci d'avoir répondu de manière claire aux questions ce matin, Vincent Hainouf. Et évidemment, vous allez rejoindre l'Institut Pasteur, puisque cette enquête flash va être essentielle pour la prise de décision politique. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Et à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h29. Vous restez bien sur Europe 1 à suivre un nouveau journal avec Chloé Triomphe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h31 sur Europe 1, un nouveau journal avec Chloé Triomphe. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le témoignage de ce miraculé ce matin, Bertrand est DRH. Lui aussi, il a échappé de peu à la mort face aux tireurs. Et les enquêteurs s'interrogent, s'agit-il du même suspect que celui qui a abattu deux femmes hier à Valence et une autre mardi en Alsace? Les 27 haussent le ton face aux laboratoires pharmaceutiques et à leur retard de livraison. L'Union européenne veut contrôler les exportations à partir d'aujourd'hui. Enfin, Jean Le Cam, vétéran de ce Vendée Globe, est arrivé cette nuit au Sable d'Olonne, épuisé mais heureux.
Juste après ce journal, les conseils pour consommer du bon sucre de Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe, hein, notre santé, des algues pour fabriquer du verre, notre planète avec Fanny Agostini et bien sûr avant 9h, Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est le témoignage d'un miraculé que vous allez entendre. Bertrand, DRH aux environs de Mulhouse, a lui aussi failli mourir. Mardi soir, un homme s'est présenté chez lui, arme à la main, et lui a tiré dessus. Il venait de tuer une autre DRH quelques heures plus tôt en Alsace.
Et aujourd'hui, les enquêteurs se demandent s'il ne s'agit pas du même homme qui a abattu hier une conseillère Pôle emploi et une autre DRH. Écoutez le témoignage de Bertrand qui réalise aujourd'hui qu'il aurait pu mourir.
Je suis chez moi en train de travailler, ça sonne à la porte. Je veux ouvrir, quelqu'un masqué, comme ça doit se faire avec le Covid, tient un carton dans les mains. J'ai un coup de feu qui part, visiblement il y avait un pistolet, semblerait-il, sous le carton à pizza. Il n'a pas réussi à tirer un deuxième coup, il part en courant. Je le suis, je le rattrape, je le plaque au sol, je voulais simplement le retenir et le maîtriser. Se déclenche une bagarre, il arrive à m'échapper des mains. J'ai besoin de quelques secondes pour reprendre mes esprits. Je continue à y courir après. Voilà, il s'était enfermé dans sa voiture. En plus, j'étais chez moi en chaussettes. Je n'ai pas réussi à le retenir et voilà quoi.
Vous êtes un miraculé.
Je commence à me le dire parce que je commence vraiment à me rendre compte de ce qui s'est passé.
Alors une autre DRH, une ancienne collègue à vous, si je ne me trompe pas, a été tuée le même soir, pas loin de Colmar.
Oui, tout à fait. Oui, oui, on était d'anciens collègues. Oui, on était encore en relation.
Et puis, il y a donc encore une autre DRH tuée, elle aussi, ce jeudi en Ardèche.
Évidemment, on est tenté de faire le lien. Je pense qu'il faut attendre que l'enquête puisse avancer plus loin.
Un témoignage recueilli par Arthur Mbaché pour Europe 1.
Aujourd'hui, toutes les agences Pôle emploi garderont le rideau tiré en hommage à la conseillère tuée hier dans celle de Valence.
Les chiffres de la croissance ont été dévoilés ce matin et sans surprise, l'année 2020 a connu une réception massive sous le coup de l'épidémie avec une chute du produit intérieur brut de 8,3%. Mais point positif, c'est moins que les prévisions de l'INSEE qui s'attendait à un plongeon de 9%. Sur le front de l'épidémie, l'exécutif laisse toujours planer le doute sur un possible reconfinement strict, hybride. Le vocabulaire est évolutif. En attendant des annonces pour ce week-end ou le début de la semaine prochaine, la campagne de vaccination se poursuit, mais beaucoup plus lentement que prévu. Concrètement, en France, 2,5 millions de personnes seront vaccinées d'ici la fin février au lieu des 4 millions initialement prévus. Les prochaines prises de rendez-vous pour des injections entre le 15 et le 28 février seront ouvertes d'ici la fin de la semaine, selon le ministre de la Santé. Par ailleurs, Le vaccin d'AstraZeneca fait l'objet de questionnements sur son efficacité sur les plus de 65 ans. Les autorités sanitaires allemandes l'ont même déconseillé pour cette tranche de population.
8h35 sur Europe 1.
Comme chaque année, le ministère de l'Intérieur publie les chiffres de la délinquance pour l'année précédente. Bilan, en 2020, la délinquance a chuté, sauf en ce qui concerne les violences intrafamiliales et les violences sexuelles. Mais il y a des explications à cela, Gladys Laffitte.
Oui, un constat qui s'explique par l'année atypique que l'on a vécue en 2020. D'abord, parce que les deux confinements de mars puis de novembre ont empêché la délinquance sur la voie publique de prospérer. C'est tout simplement mécanique. Par exemple, les cambriolages, moins 20%, et bien parce que les gens sont plus chez eux. Et même logique pour les vols à la tire et les pickpockets dans les transports qui baissent de 24%. Globalement, les agressions physiques qui augmentaient depuis des années ont diminué de 7%. Mais cette baisse exclut évidemment les violences intrafamiliales. C'est le revers de ces deux confinements et de cette année hors norme. On le sait, le huis clos a favorisé ces violences, plus 9% sur l'année. Les violences sexuelles sont aussi en forte hausse, comme les affaires de viol, une hausse de 11%, ce qui peut aussi s'expliquer par un nombre de plaintes plus important, surtout avec les campagnes de sensibilisation qui fonctionnent. De plus en plus de victimes n'hésitent plus à porter plainte. Enfin, dernier point, les escroqueries qui ont augmenté, et notamment avec toutes les arnaques liées au coronavirus.
Explication signée Gladys Laffitte du service police-justice. Depuis hier, les policiers du commissariat d'Aubervilliers qui avaient organisé une fête à l'occasion d'un pot de départ sans geste barrière sont sous le coup d'une enquête judiciaire. L'enquête a été confiée à la police des polices, l'IGPN.
C'est dans la nuit, vers 2h du matin, que Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe après 81 jours de mer. Il est arrivé dans le port des Sables-d'Olonne.
À 61 ans, ce navigateur roux en couleur a bouclé un tour du monde épique en terminant à la 4e position. Corinne Boulou était sur place.
Les sablés étaient présents, flambeaux à la main et cornes de brume en action cette nuit pour accueillir le héros. Le roc breton de 61 ans, soulagé d'avoir réussi à boucler son 4e Vendée Globe. La coque de son bateau a commencé à se délaminer, à partir en lambeaux dans l'océan Indien, après le départ de Kevin Escoffier, qu'il avait récupéré sur son radeau de survie. Et là, eh bien, c'est un autre tour du monde qui commence, la boule au ventre.
J'ai failli m'arrêter en Nouvelle-Zélande, j'ai failli m'arrêter au Cap Horn. Chaque jour, chaque vague, je me disais, est-ce que ça va tenir ? J'avais tellement peur que ça a cassé deux fois. J'ai fait deux réparations.
Quelques minutes plus tard, le roi Jean, puisque c'est ainsi qu'il est surnommé, s'installe en conférence de presse, une couronne posée à ses côtés. Lui qui n'avait pas souhaité jusqu'à l'arrivée évoquer cette avarie, eh bien tout à l'heure, il reconnaissait être passé très près de la catastrophe.
Que je sois là aujourd'hui, c'est un miracle, quoi. C'est tout simplement incroyable, quoi. Alors en plus, il y a le classement. Il y a un moment, tu t'en fous complètement du classement. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives. Et en plus, avant-hier, j'étais 8e. Et les choses ont fait que bon, moi, je finis 4 à la place du con.
Grand éclat de rire dans la salle. Et pour finir, c'est sur une danse, couronne sur la tête, que Jean Le Cam a savouré son retour sur la terre ferme.
Corinne Boulou au Sable d'Olonne pour Europe 1. Et puis, notez que ce soir, les handballeurs français vont tenter de décrocher une place en finale du Mondial face à la Suède. Coup d'envoi à partir de 17h30.
Merci beaucoup, Chloé Triomphe. 8h38, Laurent Cabrol est avec nous pour une nouvelle météo.
Ouais, bon, j'essaie de faire un point. Je suis pas très, très optimiste pour ce qui vient. Alors, on n'a pas besoin de ça, mais enfin, il faut que je vous en parle. Demain et après-demain seront des journées où les pluies seront encore très présentes, avec une petite tempête hivernale qui s'appelle Justine, qui va faire en sorte que les vents seront vraiment très forts demain et après-demain. Ensuite, il y a toujours ces risques d'inondation. J'en parle depuis plusieurs jours. Je ne veux pas radoter, mais les risques d'inondation sont grandissants. Et maintenant, ça devient vraiment sérieux pour la semaine prochaine. Et puis, troisième point, la douceur qui est actuellement la nôtre. On aura aujourd'hui entre 11 et 17 degrés sur la France, cette douceur va s'estomper et nous aurons probablement dans les jours qui viennent, je ne peux pas vous dire quand exactement, peut-être une vague de froid, enfin quelque chose de très froid en tout cas, qui va encore nous surprendre et nous désorienter. Bref, je reviens à la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de giboulée avec une amélioration pour certains d'entre nous, les côtes atlantiques, la basse Normandie, le Poitou-Charentes. Après, les averses seront très présentes, à entrecouper d'éclaircies sur Paris, sur la Bourgogne, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace. Attention, vigilance orange sur les Vosges, la Franche-Comté, le nord des Alpes, et puis du soleil quand même en Méditerranée. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Température maximale, je le rappelle, entre 12 et 15 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h39.
Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Jimmy, on voit fleurir de nombreux livres vantant les mérites de régimes sans sucre. Alors régime au pluriel, il y en a plein. Est-ce qu'il faut vraiment se passer du sucre, Jimmy ?
Alors, vous avez raison, Mathieu, c'est à la mode, avec une promesse, celle de vous détoxifier du sucre. Alors, en cette période un peu compliquée, je vous le déconseille, hein, on vit déjà une période suffisamment difficile pour se restreindre de façon supplémentaire avec le sucre. Surtout que ça va entraîner un sentiment de frustration si vous éliminez totalement le sucre. Et puis, on va avoir tendance à avoir des carences, puisqu'on va être très restrictif. Et donc, si vous n'êtes pas accompagné, ça va être problématique. D'autant plus que le sucre, on le diabolise, mais il est nécessaire au fonctionnement de nos cellules, et en particulier du cerveau. Cerveau qui représente seulement 2% du poids corporel, donc c'est très peu, mais qui va consommer 25% de la consommation d'énergie totale. C'est 120 grammes de sucre par jour dont le cerveau a besoin. En revanche, ça c'est clair, l'excès de sucre peut conduire à l'addiction. C'est vrai que le sucre peut rendre addict, on l'a vu notamment chez les souris, à qui on propose soit de la cocaïne, soit de l'eau sucrée. Et bien naturellement, elles vont se tourner vers l'eau sucrée plutôt que la cocaïne. Ça veut dire que le sucre active dans notre cerveau de la dopamine et le circuit de la récompense. Et ça, les industriels l'ont bien compris, puisqu'ils vont en mettre notamment dans des gâteaux apéritifs. Ça va agir un peu comme un exhausteur de goût.
C'est le symptôme du paquet de bonbons que vous démarrez et oh, il est fini.
C'est ça, exactement.
Jimmy Mohamed, faut donc partir à la chasse à ces sucres industriels en fait.
Oui, vous avez tout compris Mathieu. Alors, il y a sucre et sucre. Celui qui est contenu dans les fruits ne pose aucun problème, à moins de manger 5 kilos de raisins par jour. Vous verrez, ça ne posera pas de soucis. Il y a des sucres qu'on sous-estime, notamment celui contenu dans les chewing-gums. On appelle des sucres alcool, qui lorsqu'ils sont consommés en trop grande quantité, vont entraîner des troubles digestifs, des douleurs abdominales, de la diarrhée. Ça veut dire qu'il faut en manger un éventuellement après le repas pendant 20 minutes, mais pas plus. Et puis, il y a des sucres cachés, notamment par exemple dans le ketchup. Ketchup dont les enfants raffolent, mais aussi les adultes. Une cuillère à soupe de ketchup, c'est 4 grammes de sucre. Et puis, il y a des moments où on est frustré, on a une pulsion de sucre. Et là, je vous donne deux conseils. Le premier, c'est la cannelle. La cannelle a un pouvoir sucrant, mais sans sucre. Et donc, ça va réduire vos pulsions. Et puis, il y a autre chose qui va vous paraître un peu contre-intuitif. Eh bien, il faut dormir. Les petits dormeurs qui se mettent à dormir un peu plus longtemps vont avoir moins de pulsions sucrées. Et si vous voulez en savoir plus sur le sucre, tout à l'heure, de 15h à 16h avec Mélanie Gomez, on consacre une émission spéciale sucre et surtout autour des mythes autour de ce sacré sucre.
Eh ben c'est noté, Jimmy Mohamed, qu'on retrouve tous les jours avec Mélanie Gomez, 15h-16h, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1. Merci Jimmy. 8h42, notre planète, comme tous les matins, avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin, Fanny, vous nous dites que remplacer le plastique par du verre est une fausse bonne idée, car fabriquer du verre, ça pollue énormément.
Oui, car le verre, c'est très émissif en CO2. En cela, non, le verre n'est pas du tout l'avenir du plastique et croire que les contenants en verre sont une meilleure option est totalement faux. En tout cas, pas le verre tel que nous le fabriquons aujourd'hui, parce que le verre, au final, c'est quoi ? C'est du sable, du calcaire, du carbonate de sodium, mais ensuite, l'étape cruciale, c'est la fusion. Ce sont des fours qui permettent de faire fondre le mélange avant de passer au moulage, et on monte le thermostat jusqu'à 1300 degrés, et ça, c'est très très gourmand en énergie. Et pour le recyclage du verre, les industriels ont recours aux mêmes méthodes et rejettent beaucoup de CO2 pour faire fondre le verre avant de lui donner une seconde vie.
Pourtant, il y a une solution. Vous nous dites que pour fabriquer du verre biologique, il serait aujourd'hui possible d'utiliser des algues.
Oui, les algues sont capables de fabriquer du verre. Certaines d'entre elles, que l'on appelle les diatomées, de petites algues unicellulaires, vont réaliser une sacrée prouesse, celle de se fabriquer un exosquelette, une sorte de coque pour se protéger du milieu extérieur. Et cette coque, elle est faite en verre. Et là où c'est très très fort, c'est que ce verre, ces petites algues, vont le prélever de la silice qui est présente dans l'eau. Et là, elles parviennent à fabriquer du verre à pression et à température ambiante. Pour elles, pas besoin de passer par la fusion. Dans cette technique de chimie douce, l'eau va remplacer le feu. Et cette faculté nous permet de rêver à de nouveaux matériaux.
Alors on pourrait fabriquer du verre dans les mêmes conditions que ces algues magiciennes ?
On le fait déjà en s'inspirant directement de ces algues. On arrive à partir d'une solution fluide à polymériser la matière, c'est-à-dire à agglomérer les composants sans les faire fondre et à reconstituer une poudre de verre sans rien faire chauffer du tout. Une gamme très variée de matériaux existe avec des applications concrètes et vous serez surpris d'apprendre que le toit du Théâtre National de Pékin est en verre inspiré de ces algues. Dans notre vie de tous les jours, il y a même maintenant les semelles des fers à repasser qui sont réalisées à partir de ce procédé. Et ce qui est remarquable, c'est de faire le constat de l'ingéniosité de la nature. Ces diatomées sont épatantes, car en plus, je ne vous l'ai pas dit, elles sont aussi bienfaitrices pour le climat et captent le CO2 atmosphérique par leur photosynthèse. Alors, la prochaine étape, c'est d'imaginer fabriquer un matériau bio-inspiré appliqué à nos bâtiments, nos maisons, et qui aurait cette fonctionnalité. Je peux vous dire que les ingénieurs y travaillent déjà.
Et tant mieux. Merci Fanny Agostini, notre planète tous les matins sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et vous restez avec nous à suivre la revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin,
le 7-9, Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu.
Et oui, oui, ma chère Julie. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr le reconfinement. Alors, hier, on nous annonçait un reconfinement serré, vous vous en souvenez. Maintenant, c'est un reconfinement hybride. On en parlait avec Vincent Hénouf. Hybride, c'est comme les voitures. Un reconfinement à moitié électrique, à moitié essence. Un reconfinement non polluant et silencieux avec certainement une prime à l'appui. Emmanuel Macron pourrait en tout cas l'annoncer dimanche ou lundi. Voilà, ou mardi ou mercredi.
Ouais.
Bon, enfin voilà, vu que le temps que ça met à démarrer, on est plutôt sur un reconfinement pour l'instant diesel. Hein. Puis l'autre info, c'est bien sûr, vous en doutez pour les cinéphiles qui nous écoutent, c'est le Festival de Cannes qui se tiendra en juillet.
Ah, la ministre.
Oui, bonjour Mathieu, ma chère Julie, Paul est là, tout le monde est là. C'est votre ministre de la culture préférée. Oui, alors comme hier, voyez, on attaque avec une bonne femme. Est-ce qu'on sait, j'ai prévu une bouteille d'eau.
Très bien.
Voilà, bon allez, c'est formidable. Cannes en juillet, vous imaginez, on va donc savoir quels seront les meilleurs films que vous ne pourrez pas voir au cinéma l'an prochain. Hein, à cause du 12e confinement, bien sûr. Bon, après, entre vous et moi, je peux tout vous dire. À mon avis, vous ne louperez pas grand-chose, vu qu'on n'a pas pu tourner de film depuis un an. Hein, par Guillaume Canet, mais en Chine, avec
ah bah oui,
Astérix là-bas. Voilà.
Astérix
voilà, on aura le choix donc entre les films qu'on ne peut pas montrer et ceux qui n'existent pas. Et c'est là, oui, c'est là où ça tombe bien, c'est que c'est les mêmes. Admettez que c'est quand même bien foutu.
Bien foutu, oui, c'est vrai. Merci Roselyne Bachelot. Le reconfinement aura-t-il lieu la semaine prochaine? Le gouvernement a en tout cas conscience que le moral des Français pourrait être sérieusement impacté. Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Oui, bonjour, madame Julie, monsieur Béliard, monsieur Caron. Bonjour aux papy, aux mamies qui nous écoutent. À qui, je le dis, qui ne doivent pas s'inquiéter face à ce reconfinement.
Ah bon?
Bon, vous savez, les confinements, c'est comme le pastis. Et à partir du troisième, on ne sent plus ceux qui vont suivre. On aborde ça de façon plus décontractée.
Ça sent le vécu.
Voilà, oui. Donc détendez-vous, papy et mamie.
Pastis, oui. Alors, vous avez quand même promis un débat et un vote à l'Assemblée pour ce reconfinement.
Oui, nous ferons voter tous nos sbires, tous nos députés, voilà, par l'Assemblée nationale, nous ferons voter ce reconfinement. Quant au Sénat, comme il n'est composé que de personnes à risque, que ce soit à cause de l'âge, de l'inactivité ou de l'excès de sucre, le diabète, monsieur Mohamed, ou excès de poids, voilà, je pense réunir dans une large majorité au Sénat aussi. Et il est important donc de passer de façon démocratique par ces instances.
Ben pourquoi, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ça?
Oui, avant. Non, mais comme ça, on pourra dire que c'est de leur faute. Voyez, si ça tournait mal, comme aux Pays-Bas, par exemple, ça nous fait un fusible idéal.
Oh, d'accord, oui. Alors, autre chose, tiens, vous avez appelé un étudiant, Gaspard, qui a fait une vidéo sur le malaise des étudiants, vue par plus de 2 millions de personnes sur Instagram. Le malaise de la jeunesse vous touche?
Oui, évidemment. Évidemment, j'ai donc décidé d'appeler ce jeune Jaspard, influenceur réputé, pour le rassurer sur notre action gouvernementale. J'en ai profité d'ailleurs pour découvrir ces nouvelles technologies que l'on appelle Instagram. C'est le monde, je l'annonce sur Europe 1, c'est le monde de demain. Vous devriez vous mettre à Instagram. Il n'y a que des photos, des vidéos. Peut-être n'est-ce pas très radiophonique, mais bon, peu importe. C'est classé par thème. Le thème le plus populaire, je l'ai noté d'ailleurs.
C'est quoi?
Alors, le thème, attendez, je l'avais noté. C'est Hot Girls.
Hot Girls. Oh là là, c'est
regardez,
chaud.
Regardez, alors je l'ai sur mon portable, je clique dessus et ça donne 7 milliards de résultats. Ce n'est pas rien. Il y a aussi Fitness.
Fitness.
Bon, c'est un peu les mêmes photos que Hot Girls. Mais bon, voilà. Écoutez, voilà, je ne vais pas m'étendre sur ces hautes technologies. Je dois préparer là une chorégraphie pour TikTok. Ce sont que des chorégraphies pour le coup. Voilà. Et vous me suivez, allez, un, et trois, oh là là, je suis en retard déjà. Et un, et deux, oh, et deux, et voilà.
Ah, merci beaucoup, Jean Castex.
Ah, pour la scène, quel danseur en diable.
Ah, on a passé un bon moment avec vous, monsieur Castex.
D'en prie.
Allez, bon week-end. Le Beauvau de la sécurité débutera lundi et durera 4 mois. On va en parler avec quelqu'un qui connaît bien les locaux, qui connaît bien le ministère de l'Intérieur, c'est Nicolas Sarkozy.
Oui, bonjour, Mme Julie, monsieur Béliard, monsieur Cabron, merci de m'accueillir. C'est vrai, dans ma vie, j'ai très bien connu le ministère de l'Intérieur. Notez que depuis ma retraite, je connais mieux le ministère de la Justice. Voilà, donc, au ministère de la Justice, voilà, il y a des papis qui font du golf, qui font du scrabble. Ben, moi, je fais des gardes à vue. Voilà. C'est mon passe-temps, mon zombie.
Alors, on va reparler de votre action à Beauvau. On se souvient d'un reportage célèbre. Vous étiez en visite dans un commissariat et vous avez dit une phrase restée célèbre. La mission de la police, c'est pas d'organiser des tournois de foot. Ben, ça les avait beaucoup agacés.
Oui. Hein. Ah, ça, je m'en souviens, oui. Ça ne leur avait pas plu aux policiers. Ah, non. Moi, j'avais aussi retourné la banlieue. Vous vous souvenez avec ma phrase? Oui, vous inquiétez pas, on va la passer au Karcher.
Oui, je me souviens.
Je crois que j'étais un des seuls à l'intérieur à réussir ce grand écart. Me mettre à dos la police et les voyous. Vous avez vu? J'ai fait un effort, monsieur Béliard. J'ai pas dit racaille. Parce qu'ils sont susceptibles, ces petits cons.
Alors, parlons violence policière. Vous réfutez ce terme, hein, comme beaucoup d'ailleurs.
Moi, je ne trouve pas qu'il y ait un problème de violence policière en France.
Ah bon?
En revanche, j'en causais avec Édouard Balladur, pardon. Ah. Il y a un vrai problème de violence judiciaire dans ce pays. N'est-ce pas, Édouard?
Je vous demande de ne pas m'arrêter.
Non, mais regardez ce qu'ils lui font, franchement. Un pauvre vieux, franchement. Mais quelle indignitude, Mme Pyjama.
J'adore. Merci, M. Sarkozy. Les 1600 discothèques fermées depuis un an pourraient se transformer en centres de vaccination. C'est en tout cas ce que propose le Syndicat national des discothèques. Et on est en ligne avec le docteur Philippe Douste-Blazy. Alors, vous êtes devant le Macumba Flash de Toulouse, c'est ça?
Ça s'appelle. Oui, allô?
Oui.
Oui, bonjour madame, monsieur Béliard. Madame Julie?
Oui, on est là.
Oui, je suis effectivement au Macumba Flash de Toulouse. Pour tester donc cette initiative, nous avons transformé cet établissement réputé dans la région toulousaine en centre de vaccination. Et c'est vrai que c'est la folie, c'est un véritable succès.
Ah bon, il y a du monde?
Ah, ça n'arrête pas.
Ah.
Ça n'arrête pas.
Ah, bon.
Évidemment, on reste prudent. On reste un débit de vaccin. C'est interdit aux mineurs de 75 ans. Donc on ne peut pas. Attendez, monsieur,
non, je suis désolé.
Non.
Mais c'est des charentaises. J'ai 87 ans et j'ai des amis qui m'attendent à l'intérieur.
J'avais dit monsieur, pas de basket. Un instandig. Bon, attendez, pardon. Ah oui, non, j'avais pas vu. Oui, c'est oui, des charentaises. D'accord, ok. Non, j'avais pas vu avec les lasers. Ok. Attendez, Julie, j'ai une annonce à faire.
Oui, allez-y.
Et merci à tous d'être venus ce soir. On est ensemble jusqu'à 5h du matin pour cette soirée vaccination. Il y aura des seringues à gagner, des autocollants et du stéradan. Pour une injection, je vous rappelle que pendant le quart d'heure américain, la deuxième est offerte 4 semaines plus tard. Attention, c'est parti. Pour assurer l'ambiance. Bon, je vous laisse. Même Julie, d'autant qu'on a un autocar de clients qui vient du... du Purple Jet de Montauban et un autre du Palace Inferno de Carcassonne.
Merci Monsieur Doustevladi. Allez, pour terminer, on va parler de ce groupe Génération Identitaire qui pourrait donc être dissous suite à leur dernière opération anti-migrants dans les Pyrénées.
Bonjour. Bonjour Julie, Monsieur Béliard,
je vois
la scène. Bonjour, c'est Jean Lassalle, député des Pyrénées, cette belle région des Pyrénées. Je me réjouis de la dissolution de Génération Identitaire, bien que je pense que, de toute façon, ils n'auraient jamais remis les pieds dans nos Pyrénées.
Ah bon, mais pourquoi?
Et avec quelques camarades, quand nous avons appris la venue de ces individus malfaisants dans des forêts, les forêts de nos montagnes. Mmh. Nous avions organisé une réjouissante chasse aux cons.
Une chasse aux cons?
Oui, alors c'est si vous avez la mufieuse.
Mais alors ça consiste en faire, quoi?
Ouais, faire, ouais. Organiser un européen, je ne sais pas s'il y en a. Il y a une liste peut-être. C'est très simple. Vous avez les noms, M. Gabrol? Vous avez créé. Oui, c'est alors, très simple à faire. Mmh. Vous attendez la saison des cons. Mmh. Alors, il faut des beaux cons. Hein. Des cons de 50-60 kilos, c'est déjà un joli con. Avec, vous savez, des cons avec des doudounes blanches ou bleu ciel, avec marqué la France aux Français, pour qu'on les voit bien dans les bois. Et là, vous piégez le con avec un appo. Un appo, vous savez, cette petite flûte qui, qui fait le bruit du con. Et si vous êtes fort, vous imitez le cri du con.
Ah bah, ça fait comment alors le cri du con?
Attendez, je vais le faire. Attendez, j'ai mon appo, je vais le faire. Regardez là-bas, un Somalien.
Vous êtes là.
C'est le, et là, le con part directement dans la direction que vous souhaitez. Et le jeu, c'est de l'orienter au milieu des orties. Oh. Vers une tanière de 30 sangliers à qui on a donné de la Red Bull avant le début du jeu. Et là, on se régale. On s'est amusé à voir quatre ragondins rentrer dans le pantalon d'un con de Génération Identitaire. Je peux vous dire, c'est incomparable. C'est un vrai spectacle. Et nous, on regarde ça en buvant de l'alcool de sapin. Et après, on tire deux coups de fusil en l'air. Voilà. Et les cons rentrent chez eux. Oui. Ça reste bon enfant. Oui, il rentre chez eux, le pantalon sur les chevilles en courant. D'ailleurs, si la dissolution pouvait attendre un peu, on aimerait bien faire une petite partie la semaine prochaine de chasse aux cons avec de nouveaux cons.
Ah bah tiens. Hein,
d'autant qu'on a filé du gouronzin à des ours.
Oh non, pitié.
Nicolas Cantelou, Julie, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Un grand merci à vous deux. 8h59. Et dans quelques secondes, Philippe Vandel, Culture Média. La matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Mais oui, avec une exclue pour démarrer, deux nouvelles séries sur TF1, deux grosses productions américaines très attendues. Lesquelles? C'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Sophie Leveau. C'est la directrice artistique des acquisitions du groupe TF1. Elle sera là. Ensuite, Christophe Beaugrand, il va parler de ses nombreuses activités. Il y a la finale de Ninja Warrior demain. Il y a le brunch de l'info tous les week-ends. Et aussi, il fait Star à nu. Donc il enlève tout et ça sera ici dans ce studio, presque. Et puis il y a un phénomène, la chanteuse soul Kimber Rose qui présente son nouvel album Out, ça veut dire sorti, il est sorti ce matin.
Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1, la matinée continue, je vous souhaite un très beau week-end, c'est Pierre de Villeneuve qui vous réveille et samedi, dimanche, je reviens lundi matin en direct dès 7h, d'ici là le monde aura changé, on va vous le raconter.